Je suis Isabelle Alfandari, je suis membre du jury des rencontres philosophiques. Je suis philosophe et psychanalyste. Alors, je vais faire une très brève introduction à la question de peut-on tout dire aux enfants, parole et sexualité, et puis je vais très rapidement donner la parole à mes collègues sur ce divan, si j'ose dire, sur ce canapé. Et puis, on va essayer d'engager le débat assez rapidement avec la salle. On s'est un peu réparti le temps de la parole aussi par segment de vie, si j'ose dire. Moi, je vais un peu évoquer la petite enfance, la question de savoir ce qu'on peut dire aux enfants à un très jeune âge, ce qu'on peut dire à ce qu'on appelle l'infance, y compris, c'est-à-dire ce mot latin qui veut dire celui qui ne parle pas. Et puis je crois que Cécile, vous nous direz un mot peut-être du rapport de la vérité à l'adolescence ou les grands ados. Et puis Chloé, vous nous parlerez des aspects, disons, du rapport entre parole et vérité en direction d'une adolescence plus difficile. Et des jeunes enfants aussi, mais qui relèvent de la justice pour enfants, donc qui connaissent des parcours de vie plus accidentés, disons, que peut-être ceux qu'on va évoquer pour commencer. Alors, je dirais juste un mot d'introduction. C'est une immense question, la question de la vérité dans le champ de l'enfance. C'est une question qui intéresse sans doute l'histoire de la philosophie, qui intéresse aussi, bien sûr, l'histoire de la psychanalyse et de la manière dont, notamment, une psychanalyste française, dont vous connaissez tous le travail, Françoise Dolto, a considéré que tout était à mettre en mots. C'est son, d'une certaine manière, c'est son injonction en direction des parents dans les années 70. Et c'est une injonction qu'elle a transmise à travers des publications qui n'étaient pas destinées simplement à ses collègues et un certain nombre d'émissions de radio. Le grand enseignement de Dolto, je pense, qui est lui-même un enseignement vraiment fondé sur sa clinique et aussi sur sa formation de psychanalyste, c'est que l'enfant est une personne. Que le bébé est une personne, et jusque la fin des années 50 ou les années 60, on s'adressait assez peu aux nourrissons, et Dolto montre que des mères qui ne parlent pas, des pères qui ne s'adressent pas aux nourrissons, peuvent laisser des nourrissons en état de ne pas s'alimenter, et que se mettre à parler, s'adresser à l'enfant, parler avec lui dès son plus jeune âge, dès son premier jour de vie, dès sa première heure, est absolument capital à ce que Dolto appelle l'humanisation. On ne naît pas humain, si j'ose dire, on le devient, et on le devient par la médiation de la parole. Et ça, c'est capital. Et alors, on peut se dire que cette doctrine est complètement passée dans la culture, d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, tous les parents parlent à leurs enfants et même à des très petits enfants, et pas seulement au fond les parents, et c'est très heureux, mais les adultes, en situation de rencontre d'un nouveau-né, nous parlons au bébé. Nous ne posons pas la question, même si nous pouvons être un peu mal à l'aise dans l'adresse à un petit qui ne nous répond pas en apparence, en tout cas par le langage. Donc cette idée, elle s'est complètement, au fond, elle a complètement infusé, elle a percolé dans la société, l'idée qu'on ne peut pas rester face à l'enfant dans le silence. Et l'idée, c'était l'idée de Dolto, qu'il faut tout mettre en mots, qu'il faut, comme dit Dolto, parler vrai à l'enfant, dès son plus jeune âge. On sait que Dolto avait des positions qui ont pu d'ailleurs être débattues, mais qu'elle soutenait de manière extrêmement ferme concernant le fait qu'un enfant, par exemple, adopté, doit être tenu au courant de son adoption dès que l'adoption a lieu. On ne doit pas laisser l'enfant ni dans le mensonge, ni dans le mensonge par omission, ni, bien sûr, dans le silence. Et on sait, et ça, Dolto y a beaucoup insisté, que le silence, sur notamment ses origines, sur des situations particulières de la famille, de maladie, de handicap, sur la mort des aïeux, sur la mort de l'un des parents, peut plonger l'enfant dans un traumatisme catastrophique. Donc, parler vrai, en tout cas, c'était l'idée de Dolto, et c'est ça, parler vrai, y compris à l'infance, y compris de manière un peu contre-intuitive à celui qui apparemment ne répond pas. Je dis apparemment, mais est absolument capital. Je dis apparemment parce que quand on travaille avec des très petits enfants, c'est mon cas, je travaille dans une maison verte avec des enfants de 0 à 4 ans, mais un enfant de 15 jours ou d'un mois, un bébé, en fait, même s'il ne parle pas, s'il se porte bien, on peut dire, il vous répond. Il vous répond par des yeux écarquillés lorsqu'il vous voit. Il a l'air de vous demander ce que vous lui voulez, de manière très, très intentionnelle, d'une certaine manière. Et donc, on peut dire que l'enfant, bien avant de parler, cet infant, il est toujours déjà très loin dans son histoire, pris dans le langage. Et même s'il ne parle pas au sens où il ne répond pas de manière explicite, il est pris dans le langage. C'est comme ça qu'on le dit en tout cas. Et des enfants qui ne vous répondent pas, des bébés qui ne répondent pas par le regard, voilà, on les regarde d'un peu plus près, si j'ose dire. Donc la grande idée de Dolto, c'est qu'on n'est pas là pour observer précisément l'enfant, pour le regarder sous toutes les coutures. On doit lui parler et on doit lui parler vrai. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, me semble-t-il, dans l'après-coup de cette révolution, disons, de la psychanalyse pour enfants, c'est de se demander dans quelle mesure la doctrine de Dolto doit être appliquée à la lettre et combien elle doit être appliquée de manière, absolue. Est-ce qu'il s'agit de tout dire aux enfants, comme dit Dolto, de parler vrai aux enfants tout le temps ? Et c'est une vraie question, à la fois clinique pour les jeunes patients et leurs parents qu'on peut recevoir. C'est une question qui se posera peut-être aussi dans les champs dont vous allez parler dans un instant. C'est aussi une question dans les familles. Est-ce qu'on doit parler de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous traverse à l'enfant ? Est-ce qu'on doit dire très tôt à l'enfant ce qu'on sait de la vérité sur le sexe et la mort, par exemple ? Est-ce qu'on doit, qui sont des questions qui sont les grandes énigmes au fond, et notamment la sexualité, qui sont les grandes énigmes humaines ? Est-ce qu'on doit prévenir par avance l'enfant des catastrophes à venir, des conflits qui ont lieu dans le monde ? Est-ce qu'on doit, encore une fois, informer l'enfant de toutes les situations, par exemple, conjugales, intimes, que vivent les parents ? Il semble qu'il y ait quand même quelque chose là qui puisse être interrogé. Il y a un psychanalyste qui est bien plus ancien que Françoise Dolto, qui est très utile pour penser cette question du rapport à l'enfant, qui est un disciple de Freud, qui s'appelle Sandor Ferenczi, qui notamment insiste sur le fait que l'enfant doit être traité avec une certaine délicatesse. Que la langue du parent, la langue de l'adulte, même dit Ferenczi, et celle de l'enfant ne sont pas des langues complètement étrangères l'une à l'autre, mais ce ne sont pas exactement les mêmes langues. Et donc, s'adresser à l'enfant, par exemple, en lui parlant de sa vie intime, des difficultés conjugales qu'on peut éprouver avec le père de l'enfant, par exemple, loin de produire les effets que la vérité ou la véridicité supposée ferait sur l'enfant, ces effets supposément libérateurs ou libératoires, ça peut produire des effets en fait assez catastrophiques, hein, et notamment des effets un peu d'effraction, parce que l'enfant ne sait pas, ne comprend pas forcément ce que Ferenczi appelle la langue des sentiments de l'adulte. Il ne comprend notamment pas bien la passion amoureuse de l'adulte, qu'il ne se représente pas et qu'il ne cherche pas du tout à rencontrer. L'enfant, en tout cas si on suit Ferenczi, ce qu'il cherche surtout, c'est une forme de tranquillité, de douceur, d'apaisement. Et au fond, la vérité, notamment la vérité des sentiments, elle peut être extrêmement débordante et elle peut être de nature, au fond, à déborder l'enfant. Donc la question de savoir si on dit toujours tout à l'enfant, il me semble qu'aujourd'hui, elle est encore un petit peu révisée, que sans doute, manquer de dire à l'enfant ce qui relève de son existence, en cas, par exemple, de séparation des parents qui aura des incidences des conséquences très, très, très fortes sur la vie de l'enfant, c'est bien sûr plus que légitime, mais entrer dans le détail de tout ce qui traverse le parent, notamment passionnellement, si j'ose dire, émotionnellement, ça peut être problématique. Et il me semble qu'il y a quelque chose peut-être que moi je soutiendrais au regard de cette question de savoir s'il faut dire toute la vérité, notamment sur la sexualité à l'enfant, c'est quand même de respecter à la fois son statut de sujet, donc tout ce qui l'intéresse d'une certaine manière, qui intéresse sa vie, les conséquences sur sa vie, mais aussi respecter sa condition de minorité. Et par minorité, j'entends une minorité, au fond, que j'appellerais plutôt éthique que d'abord juridique. Entre l'adulte et l'enfant, il y a bien toujours un écart. Et en fait, quelqu'un me demandait récemment ce que j'entendais par cette minorité, et cette minorité, si elle ne durait que le temps de la très petite enfance. Et j'ai été frappée par cette question que j'ai trouvée intéressante. Je ne suis pas sûre qu'elle intéresse que la petite enfance. Je pense que même par rapport à des enfants grands, et bien sûr si ce ne sont plus du tout des mineurs, ces enfants grands, la question de l'asymétrie, disons, entre celui qui a été le parent ou qui est le parent, qui le demeure, et l'enfant, fait que sans doute on n'a pas avec ces enfants même grands exactement les mêmes conversations ouvertes, à cœur ouvert, qu'on aurait peut-être avec d'autres enfants, ou avec d'autres enfants devenus grands, avec d'autres adultes. Mais peut-être c'est une question dont on pourra parler. Donc je pense que tout dire aux enfants, notamment sur les questions de sexualité, c'est risquer quand même de faire un peu effraction dans leur monde. On sait depuis Freud que les enfants ont sur la sexualité des tas d'idées qui s'appellent des théories sexuelles infantiles, auxquelles les adultes sont très contents d'ajouter leurs propres théories sexuelles infantiles, que sont les choux dans lesquels on trouve des bébés de sexe mâle et les roses dans lesquelles on trouve des bébés de sexe féminin. Mais il apparaît aussi, quand on travaille avec les enfants, que souvent les enfants ne veulent pas du tout entendre la réalité de ce qu'est l'enfant de 4 ou 5 ans, disons, la réalité de ce qu'est, même métaphoriquement expliqué, une relation sexuelle. Ils sont très contents aussi d'inventer leur propre récit, leur propre narratif, comme on a dit tout à l'heure au marché, et que d'une certaine manière, dire la vérité à l'enfant, celle dont on se croit détenteur, ça peut être aussi imposer quelque chose d'extrêmement, rigide et dans certains cas un peu débordant. Donc, au fond, au sujet de cette question de parole et sexualité, il me semble qu'à la fois, il ne s'agit pas de mentir à l'enfant, de le trahir dans la confiance qu'il nous fait, et en même temps, on ne peut sans doute pas parler sans mesure et sans une certaine réserve, notamment à des jeunes enfants. Voilà. Je passe la parole, peut-être Cécile, vous voulez.
Merci beaucoup Isabelle. Donc bonjour. Alors, 5 minutes j'ai, ça va être très simple. Les enfants dont je vais vous parler sont ceux que je connais, que je fréquente au quotidien, auprès desquels je travaille, sont des lycéens et des étudiants, donc de grands adolescents et de jeunes adultes. Leur âge, en tout cas on l'espère, suppose une utilisation du langage, une capacité à comprendre l'implicite, le symbolique, le figuré. Et cette maturité linguistique est une aubaine, la plupart du temps, car elle permet d'aborder le sujet gênant, on a dit que c'était la sexualité, inhibant, bloquant, par le biais de la métaphore. Mon propos sera celui d'une écrivaine, et d'une professeure de lettres, et ma foi placée en le langage est absolue, je dirais même déraisonnable. Moi, je serais du côté de Dolto en pensant qu'on peut tout dire, à condition de bien le dire. D'expérience, je sais que ce qui n'est pas dit est justement ce qui obsède. Ce point de départ, c'est-à-dire le silence qui rend fou, sert souvent de base à mes fictions. Parce qu'une chose essentielle a été tue, le personnage va engager une quête brûlante, fiévreuse et parfois tragique. Et personnellement, je ne parle pas de mes personnages, mais je me permets une minute de narcissisme peut-être, pardon. Personnellement, parce que tout ne m'a pas été dit quand j'étais enfant au sujet de ma conception, de mes origines iraniennes, j'ai été adoptée par mes parents, j'ai fini par être obsédée par ce creux. Ce creux, quel nom a-t-il ? C'est peut-être le corps de la femme iranienne, la sexualité dans un pays où tant de choses sont interdites et réprimées. Et ainsi, je crois que le rapport compulsif que j'ai aujourd'hui au langage, cette passion dont je vous parlais tout à l'heure, à l'écriture, à la transmission, vise à combler cette brèche. J'étais très émue en entendant parler il y a un instant de la pouponnière, parce que je suis restée 6 mois dans une pouponnière. Et je pense que je suis émue quand je dis ça parce que je ne peux pas m'en souvenir. Mes parents m'ont adoptée, j'avais 6 mois. Mais je suis persuadée qu'il y a une nurse qui m'a parlé. Et que dans la pouponnière, j'étais placée au bon endroit. Pas au fond de la salle, il y avait plein de petits lits en fer, mais certainement près d'une porte, d'un passage. J'entendais des voix et je n'étais pas seule. Parce que moi, j'ai vu des émissions insoutenables sur les pouponnières en Europe de l'Est ou en Russie. Les enfants qui sont nourris, lavés, propres, mais auxquels on ne parle pas, qu'on ne caresse pas, ils se laissent mourir de chagrin. Donc, le langage, oui, absolument. Donc, oui, on peut, on doit tout dire, mais le dire bien. Et pour revenir à cette histoire d'adoption, je ne suis pas née sous X. Et le jour où j'ai eu accès à mon dossier, je crois que la découverte du nom de ma mère biologique m'a tout simplement sauvé la peau. Donc, heureusement que j'ai su des choses et que le silence n'était pas le maître absolu à la maison. Mes parents ont été très intelligents. Ils m'ont toujours dit que j'avais été adoptée. Mes parents, bon, qui sont morts jeunes, étaient des gens nés en 34, c'était quand même des taiseux. Et ils ont dit l'essentiel, ce qui m'a permis d'avoir mon fil à plomb et de tenir. Mais voilà, c'est pas allé beaucoup plus loin. Rien sur l'Iran. Ça, j'ai fait la recherche toute seule, comme une grande, quand ils n'ont plus été là. Je savais que je leur ferais plus de peine. Et puis, je n'écris pas par hasard. Si je raconte des histoires aujourd'hui, c'est parce qu'au départ, l'histoire, on ne me l'a pas racontée. Je crois que quand on est écrivain, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au départ. Alors, le premier exemple, donc je parle, moi j'aime bien partir du concret, du terrain de ces adolescents et de ces jeunes adultes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on parle de sexualité. Donc j'ai choisi pour vous deux exemples très concrets. Premier exemple très concret autour de la sexualité, la question du genre. Les étudiants, là je vous parle de mes grands, les étudiants du programme Baudelaire, sont traversés, travaillés par cette question de la non-binarité, du il, du elle, du yel. Certains sont en transition et ce sont à chaque fois des cas compliqués. Ces dernières années, j'en parlais avec Vanessa hier, mais moi je lui ai dit, c'est les élèves, les étudiants qui étaient en transition, ils ont lâché l'affaire. Je ne les ai plus vus. Il y avait une telle douleur, un tel mal-être que, voilà, ils ont arrêté leurs études. Donc, il y a une souffrance, manifestement, mais il serait totalement incongru d'aborder cette souffrance frontalement. Je l'aborde donc par le biais du langage. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Donc, dans le cadre de ce programme Baudelaire que je dirige à la faculté de pharmacie, chaque année, on a un thème. Et cette année, on avait, pas par hasard avec l'équipe de professeurs, choisi le thème, qui m'est cher depuis la thèse de doctorat, le thème de l'androgyne. Pour aborder justement cette question douloureuse et cette question qui fâche, par le truchement des mythes, par le logos, et donc de convoquer le banquet de Platon, et donc de convoquer les métamorphoses d'Ovide avec Hermaphrodite, et aussi de travailler avec eux sur Orlando de Virginia Woolf, le grand roman sur l'androgyne, et aussi les travestis qui parcourent les comédies de Shakespeare. Et on a donné cette nourriture-là, cette littérature-là autour du thème si complexe du genre aux étudiants. Et on les a invités, parce que les professeurs du programme Baudelaire sont aussi tous des artistes qui pratiquent l'art qu'ils enseignent. Et on les a invités à écrire des textes, à peindre des tableaux sur ce thème. Et ils sont également montés sur scène et ils ont exposé leurs toiles autour du genre de l'androgyne. À chaque fois, dans l'œuvre écrite ou peinte, il s'agissait d'eux, mais surtout de beaucoup plus qu'eux-mêmes. La représentation, le regard du public permettait à un certain moment ce surplomb, cette hauteur de vue qui est absolument indispensable à l'appréhension d'un sujet complexe. L'œil ne peut pas se voir lui-même. L'œil se voit dans le texte écrit et dans la toile peinte qui sont des viatiques artistiques nécessaires pour un accès à soi-même. La poésie, la peinture sont donc des langages qui permettent de dire beaucoup de choses, j'ai presque envie de dire de tout dire, et surtout de se dire. On n'est pas seul car on est accompagné par le souvenir des auteurs, par le souvenir des grands textes et des peintres magnifiques qu'on a contemplés. Et à ce moment-là, la complexité cesse d'être seulement la nôtre. Elle devient universelle, elle peut capter l'attention d'autrui qui, en la rencontrant, cette complexité qui nous constitue, nous aidera à la comprendre. Donc on ne peut pas faire le travail tout seul. On a besoin de la rencontre avec l'autre, avec le regard de l'autre et avec la grande œuvre qui va nous décentrer, hein, nous déplacer notre douleur, s'il y en a une. En tout cas, notre angoisse et notre questionnement si compliqué. La sexualité ou n'importe quel autre thème bloquant ne peut pas être appréhendé seulement par soi-même, c'est ce que je disais. Le décentrement, le dialogue avec l'autre, c'est-à-dire l'auteur qui nous accompagne et le cas échéant, le public qui lira nos textes ou qui verra nos toiles accrochées, nous permet d'avoir moins peur et autorise un accès plus objectif à soi. Le dialogue avec l'autre permet ainsi, je le pense, hein, de sortir de ses angles morts. Ça, c'était le genre. Et l'autre sujet complexe autour du sexe avec les plus jeunes, c'est l'homophobie autour de tout ce qui est homosexualité. Là, je vais parler des quartiers sensibles où j'ai longtemps enseigné en Seine-Saint-Denis. En banlieue, vous le savez, très souvent, les lois du CAIDA stipulent une sorte de doxa linguistique complètement spécieuse, comme quoi quand on est un homme, quand on est un vrai, on parle mal. Et puis surtout, on n'a aucune appétence pour le poème. Et tout ce qui pourrait ressembler à une appétence pour le poème, au texte, donc serait assimilé à une forme de féminisation de l'être. Et donc, ce serait voué aux gémonies d'emblée. Les élèves ne sont pas scandalisés quand ils voient des films hyper violents ou de la pornographie. Ça, c'est... Voilà. Mais en revanche, ils crient au scandale quand ils vont au théâtre et que dans une pièce de Genet ou de Sarah Kane ou de Copy, ils voient deux personnages du même sexe s'unir. Donc, puisque je suis un vilain professeur, j'ai soigné le mal par le mal et je leur ai demandé... Encore une fois, j'ai fait appel aux textes et aux œuvres pour me sortir du pétrin. Je leur ai demandé d'adapter... Ça, c'était des élèves de seconde, d'adapter un roman de Balzac tout petit que j'adore, Sarrasine, pour le théâtre. Alors, je vous rappelle l'intrigue de Sarrasine. Hein. Sarrasine, c'est un petit peu comme Pygmalion, c'est un sculpteur qui tombe follement amoureux et recouvre alors son enthousiasme de Zambinella, une cantatrice. Seulement, Zambinella, c'est un castrat. Donc, c'est une histoire d'amour entre deux hommes. Et donc, les élèves ont lu ce texte. Ils ont adapté la prose romanesque de Balzac pour la scène et ils ont dû se travestir totalement, ontologiquement. Les garçons jouaient des filles et tout. Hein, y avait des histoires d'homosexualité. Et puis même linguistiquement, puisque la syntaxe devait être impeccable. Et on était sur une grande scène à ce moment-là. On était à l'MC 93 de Bobigny. Et les copains dans la salle ne se sont pas moqués. Je pense même qu'ils ont envié leurs camarades qui avaient été à ce moment-là courageux, qui avaient été jusqu'au bout d'une aventure où tout leur être était changé, travesti, mais tout ça soutenu par l'œuvre et le souvenir impeccable de l'œuvre balzacienne. Et je pense même que les camarades dans la salle, en les applaudissant, à un moment, les ont enviés et ont auraient aimé être à cet endroit-là. Cet endroit-là, quel que soit le point brûlant de la quête, cet endroit-là est indiqué par les mots. Les mots dont on a la pleine maîtrise, les mots qui nous permettent de dire qui nous sommes et ce que nous désirons sans ciller. Donc, j'ai fini. Oui, tout dire à condition de savoir bien dire. Et pour cela, notre rôle à l'école est irremplaçable à nous autres professeurs. Mais il y a aussi les juges.
Merci beaucoup Isabelle et merci Cécile et merci à tous. Donc effectivement, pour ma part, donc je suis juge des enfants. J'ai peut-être juste commencé par rappeler en deux mots ce que c'est qu'un juge des enfants, comme je le rappelle souvent aux enfants que je reçois. Hein. Un juge des enfants, donc c'est un juge qui est spécialisé dans la protection de l'enfance. Et pour ce faire, il a deux cadres d'intervention. Il a le cadre civil, qui est le cadre en fait dans lequel on va s'occuper des enfants qui sont dits en danger, dont les conditions d'éducation sont gravement compromises par l'exercice de l'autorité parentale. Et puis, le juge des enfants dispose également du cadre pénal lorsqu'un adolescent donc, commet un acte de délinquance, qui sont en fait ces deux missions, les deux revers d'une même pièce, puisque c'est parce que je protège que je gagne la légitimité à poser une limite et donc à sanctionner. Donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que de la place du juge des enfants, est-ce qu'il est possible de tout dire aux enfants ? Alors il est assez intéressant de noter que le législateur, donc celui qui fait la loi, ne pose pas la question en ces termes. Il n'aborde pas la question de la parole qu'on offre aux enfants, mais uniquement la possibilité pour l'enfant de prendre la parole dans une instance judiciaire. Alors, pour questionner ce qu'on peut dire aux enfants, moi, je dois commencer par définir déjà quand est-ce qu'il est légalement prévu que je les rencontre, les enfants. Quand est-ce que la loi prévoit que je puisse être en relation avec les enfants. En matière de délinquance, c'est assez facile finalement, puisque en raison de l'âge des enfants concernés, en général à partir de 13 ans, puisque en dessous ils sont présumés non discernants, les adolescents sont systématiquement convoqués pour être entendus, puisqu'ils sont grands, ils ont accès à la parole, il n'y a pas trop de difficultés. Mais en matière civile, donc pour le dire vite, matière de mise en danger ou conditions d'éducation gravement compromises, ben, nous, on s'occupe des enfants de 0 à 18 ans. Et donc, la question va être plus complexe parce qu'on peut être saisi de la situation d'enfant très jeune. Dès lors qu'on aborde la question sous l'angle de la possibilité pour l'enfant de prendre la parole dans l'instance judiciaire, eh ben, de fait, on en revient à exclure ceux qui ne peuvent pas parler, ce qui les aboutit de facto à priver le juge de leur adresser la parole. Donc, je vous propose de nous arrêter brièvement sur le dispositif légal qui encadre l'audition des enfants par les magistrats de l'enfance. Et ensuite, on se demandera un peu qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre quand on arrive à rencontrer les enfants. Donc, dans la loi, l'enfant, il a longtemps été considéré comme un être faible, inexpérimenté, qu'il fallait protéger et surtout tenir à l'écart des conflits familiaux. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, en ne lui permettant pas de s'immiscer dans les décisions prises à son sujet. En fait, il avait une place circonscrite à l'étymologie de son nom. Hein. L'infant, c'est celui qui ne parle pas, donc on ne lui adresse pas non plus la parole de ce fait. Et puis progressivement, la place de l'enfant, elle a évolué, alors qu'il était perçu essentiellement comme un objet de domination en charge de perpétuer les lignées finalement. Il est devenu un être souhaité autour duquel les relations familiales se sont peu à peu ordonnées. Et cette évolution, ça a permis aux enfants de gagner le droit d'être entendus dans les instances judiciaires. Alors tout d'abord sous l'impulsion des textes internationaux, notamment évidemment la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est un des traités les plus ratifiés au monde, hein, qui a été adopté à New York le 20 novembre 1989. Et ça a ouvert la voie aux législations en droit interne. Je ne vais pas tout détailler, ce serait trop long et sûrement très, très ennuyeux, mais en matière d'enfance en danger, en tout cas, l'enfant, il a quand même un statut très particulier parce qu'il est au centre de la procédure en tant que personne à protéger. C'est la seule catégorie de population qui a un juge qui lui est dédié. Et pourtant, même dans cette matière, l'audition de l'enfant, elle a dû être réglementée pour s'imposer au magistrat de l'enfance. Moi, j'ai toujours repéré hein, dans les pratiques de mes collègues ou quand je forme mes collègues qu'il y a une sorte de réticence à la rencontre avec l'enfant. Une peur, en fait, très certainement, des magistrats. Aujourd'hui, la loi du 7 février 2022, donc c'est un dispositif qui est très récent en France, elle impose au juge des enfants d'entendre individuellement tous les mineurs discernants. Alors, la loi ne règle pas tout, parce qu'elle ne nous explique pas ce que c'est qu'un mineur discernant. Enfin, donc, en tout cas, elle ne nous donne pas d'âge. Donc, voilà, en général, selon les collègues, on va retrouver des âges entre 7 et 10 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on est face à un mineur qui est dit discernant, là, on est obligé de l'entendre individuellement et tout seul. Donc, ça veut dire hors la présence de ses frères et sœurs. Bon courage dans les fratries de 7 ou 8. Mais... Et de ses parents, bien entendu. Ses parents, ça, évidemment. Mais y compris, on n'auditionne pas tous les enfants. Ils peuvent avoir des places très particulières dans les fratries, avec des conflits de loyauté aussi, chacun les uns par rapport aux autres. Donc ça, maintenant, c'est le dispositif légal. Mais alors, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Ceux qui ne sont pas discernants. Ceux-là, en principe, ils ne sont pas convoqués, tout simplement. Ils ne sont pas entendus. Et en conséquence de quoi ? Le juge des enfants ne peut pas leur adresser la parole. Cela dit... Il y a un article du Code de procédure civile qui nous est extrêmement utile, puisqu'il nous dit que le juge des enfants peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Et cette disposition-là, elle permet au juge des enfants qu'il estime pertinent, finalement, de convoquer tous les enfants, quel que soit leur âge et quelle que soit leur capacité de discernement. Et moi, extrêmement tôt dans ma pratique, j'ai pris le parti de convoquer tous les enfants. Alors au départ, c'était un peu une intuition clinique. Je me disais, mais j'ai quand même bien... j'ai besoin de savoir de qui je m'occupe. Et d'observer aussi les interactions familiales autour de l'enfant. Et puis au gré des diverses formations que j'ai suivies, j'ai compris qu'en fait, cette intuition, elle répond en fait, à un besoin essentiel, qui est un besoin de sécurité de l'enfant. Et ça nous amène maintenant que je vous ai... grossièrement défini quand est-ce que j'arrive à rencontrer les enfants et quand est-ce que la loi me le permet, bah, de savoir ce qui s'y passe lors de cette audition de l'enfant. Alors, entendre un enfant, ça doit d'abord, prioritairement, permettre de répondre aux attentes de la loi. Moi, je suis juriste, j'exerce dans un cadre légal qui est la seule légitimité que j'ai pour m'adresser à une famille ou à un enfant, c'est la loi. Donc, la loi, elle me dit que quand j'auditionne un enfant, je dois lui permettre de s'exprimer sur sa situation, voire de donner un avis, et même de formuler des demandes auxquelles moi je vais devoir répondre en tant que juge, en motivant ma décision. D'où l'idée de réserver cette audition à un enfant qui est discernant, c'est-à-dire en capacité de saisir les enjeux de l'audience et de sa situation personnelle. Ça suppose évidemment pour l'adulte qui le reçoit d'avoir une posture qui lui permette à l'enfant de pouvoir déposer une parole libre et éclairée. On est tous d'accord pour dire que donner la parole à un enfant dans un cadre qui est extrêmement froid, extrêmement impersonnel, ça ne va pas du tout fonctionner. Parce que l'enfant, pour pouvoir s'exprimer, il a besoin de se sentir en sécurité. Et donc, ça suppose pour le magistrat de l'enfance de penser son accueil pour créer un climat de confiance et de sécurité. Je ne vais pas détailler là, ça peut passer par beaucoup de choses. La question de où est-ce qu'on les fait attendre, comment est décoré le bureau ou pas décoré, comment moi je me présente, etc. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que tout ça, ça ne peut pas se faire sans lui adresser la parole. Aller le chercher dans la salle, se présenter, lui expliquer quel est mon rôle pour qu'on se rencontre. Et puis lui expliquer aussi que ses propos, ils ne seront jamais totalement secrets dans le cadre d'une procédure judiciaire. Moi, j'ai une greffière qui écrit à côté ce que dit l'enfant, alors que ce tête-à-tête, ça pourrait lui donner l'illusion que c'est secret. Mais alors, moi, je me suis demandé, alors, en réfléchissant à la question qui m'était soumise, je me suis dit, mais alors, si on ressente la question de l'audition de l'enfant autour de son besoin de sécurité, son méta-besoin de sécurité, si même on s'en réfère à la démarche de consensus de 2017 qui disait, en fait, bah, que tous les besoins de l'enfant sont contenus dans ce besoin de sécurité, qu'on appelle donc le méta-besoin de sécurité de l'enfant, bah, je me suis dit, mais alors, pourquoi on en exclurait les plus jeunes ? Ou ceux qui n'auraient pas la possibilité de s'exprimer. Et ça nous amène en fait à appréhender le fait d'être entendu dans le processus judiciaire de manière beaucoup plus large, qui pourrait être compris finalement, et je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, comme le fait d'être pris en considération, d'être regardé comme un sujet, alors peut-être pas de droit, parce que okay, il faut être discernant, mais comme un individu plein, entier, malgré son jeune âge ou son impossibilité physiologique ou psychique parfois à prendre la parole. Et moi, je revendique dans ma pratique, en tout cas, la nécessité de convoquer tous les enfants. J'ai réussi à l'instaurer au tribunal pour enfants de Nice. Tous les juges des enfants convoquent et reçoivent tous les enfants. Et puis, de les écouter quand c'est possible, en leur permettant de déposer une parole libre et éclairée, et en tout état de cause, même s'ils ne parlent pas, parce qu'ils peuvent aussi faire le choix de ne pas me parler, mais de leur adresser la parole, pour expliquer les raisons de notre rencontre, pour poser des mots vrais, sur la situation de danger dans laquelle, de nos points de vue, ils évoluent, et pour expliquer les décisions qu'on va rendre. Et contrairement à une idée qui est très répandue en protection de l'enfance, qui voudrait que le fait de faire venir les enfants aux audiences participe à redoubler de leur trauma, moi je ne compte pas le nombre, alors un peu moins maintenant que les travailleurs sociaux me connaissent, mais non, surtout pas, là là, vous n'avez pas convoqué tel enfant, bon, celui-là on ne vous l'amène pas. Bon. En fait, moi je pense au contraire que le fait de leur permettre d'être présents, de eux-mêmes repérer qu'il y a quelqu'un qui décide. Sinon, on les emmène de A à B, je suis placée, je ne sais même pas qui va décider. Donc, repérer qui décide. Que cette personne prenne le temps, le soin de lui expliquer dans des mots qui sont vrais et à sa portée, ce qu'il perçoit de la vérité de sa situation. C'est toujours une perception de ma part. Et quelle décision cette personne va prendre pour tenter d'y remédier et le lui expliquer, à mon sens, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, parce que les enfants peuvent être pris dans des enjeux de conflit de loyauté très forts, mais en tout cas, c'est vraiment fondamental pour apaiser et sécuriser les enfants qu'on rencontre. Parce que ce qui majore l'angoisse chez les enfants, au-delà des situations évidemment extrêmement délétères que vous pouvez imaginer ou pas peut-être, mais que de toute façon, ils vivent déjà quand ils arrivent dans mon bureau. C'est la raison pour laquelle je les rencontre. Mais en fait, c'est de sentir un décalage entre leur ressenti, ce qu'ils perçoivent en fait, ce qu'ils transpirent, et les mots ou les postures des adultes qui les entourent. Et surtout des adultes qui sont en charge de leur protéger, leurs parents. Et puis derrière, quand c'est défaillant du côté parental, bah, y a la loi sociétale, et celle-là, c'est moi. Et parce que si on ne pose pas des mots vrais là-dessus, en fait, ils vont rester avec leur ressenti, cette impression de quelque chose qui ne colle pas, quoi. Et ça va complètement invalider leur ressenti et leur angoisse qui n'aura pas d'issue. Étant pris en compte que quand on ne parle pas, les enfants imaginent. Et ça, il n'y a pas de limite. Avec une constance qui est toujours de penser qu'ils sont responsables de leurs difficultés ou des difficultés de leurs parents. Ils sont responsables de tout. Et donc, je pense que c'est vraiment indispensable pour les adultes en charge de les protéger, de contenir ces représentations, ces fantasmes, en posant des mots très clairs et en disant la vérité aux enfants, et y compris à ceux qui n'ont pas la parole. Un enfant, c'est celui qui est le mieux à même de connaître les problématiques dont il souffre, il évolue au cœur de celles-ci. Moi, je suis toujours frappée, mais j'ai souvent des stagiaires quand j'y arrive. J'essaye de susciter des vocations. Et donc, toujours ce qui revient, où là, j'ai une greffière placée. Bon, la mienne est en congé mat, alors du coup, j'ai une nouvelle qui vient ponctuellement. Tous, ils me disent, ah là, c'est fou, les enfants, comme ils sont lucides. Bah oui, en fait, c'est leur vie. Hein, donc, même si parfois, ils cherchent à protéger leurs parents, ils peuvent être pris dans des conflits de loyauté, ça c'est clair, et c'est à nous, les adultes, d'observer en fait dans quoi l'enfant est pris, d'ailleurs raison pour laquelle moi, je ne fais quasiment jamais d'audition de l'enfant avant l'audience. C'est-à-dire que je repère déjà ce qui se passe en termes d'interaction, et au cours de l'audience, je fais sortir pour avoir un temps avec l'enfant. Donc, des enfants très lucides sur leurs difficultés, et toujours extrêmement attentif aux propos du juge lorsqu'il est question d'évoquer leur situation, même s'ils ne prennent pas eux-mêmes la parole ou qu'ils n'y ont pas accès. La semaine dernière, ça fait écho à ce que tu dis, j'avais dans mon bureau une petite fille de 2 ans. Elle était en train de... Alors moi, j'ai des jeux dans mon bureau, donc elle était en train de jouer. Et à un moment, je lui ai adressé la parole. Alors, elle ne me regardait pas spécialement, mais je lui ai adressé la parole pour lui expliquer pourquoi elle allait rester à la pouponnière. J'étais très émue de t'entendre raconter ce que tu indiques. D'ailleurs, je précise qu'il y a une étude qui montre que les enfants dans ces pouponnières, avant les expériences de pouponnières de Loxy, etc., où on a compris qu'il fallait quand même un lien d'attachement avec au moins le donneur de soins, mais dans ces pouponnières qui étaient organisées avec des lits comme ça en rangée, en fait, les enfants qui étaient positionnés dans les couloirs avaient un bien meilleur développement parce qu'effectivement, il y avait les donneuses de soins en fait en passant qui leur donnaient un coucou quoi. Donc voilà. Et cette petite fille, au moment où je lui adresse la parole, elle se retourne vers moi, elle parlait pas, hein, elle se retourne vers moi, elle me regarde, elle me fait un grand sourire et ensuite elle est repartie apaisée de l'audience. Je pense aussi encore, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je prépare une intervention, j'ai l'impression que les enfants ils m'aident, ils me donnent des exemples. La semaine dernière aussi, j'ai reçu un jeune garçon, il avait 12 ans, et il souffrait de troubles du spectre autistique. Sincèrement, pendant l'audience, je ne savais pas si j'allais l'auditionner tout seul, je n'arrivais pas trop à savoir s'il allait pouvoir juste parler. Et puis, on n'est pas forcément à l'aise, qu'est-ce qu'il en comprend, voilà. Finalement, j'ai fait sortir les parents, et au moment où les parents s'en vont, ils étaient en très gros conflit, il s'effondre complètement, il se met à pleurer, mais vraiment fort. Et il me dit, en fait, moi, ce que j'aime pas quand je vais chez mon père, c'est que, en fait, je peux pas avoir mon téléphone pour appeler ma mère, et donc c'est hyper dur, voilà. Puis au fur et à mesure de l'échange, en fait, on discute, et puis on comprend ensemble, alors bon, j'ai un peu donné des clés, mais on comprend ensemble qu'en fait, quand il va chez son père, il a l'impression vraiment de trahir sa mère. Et au bout d'un moment, il me regarde comme ça, puis il me dit, tu sais, en fait, moi... je suis super émotif. Et puis alors, quand j'ai des grosses émotions comme ça, ben, des fois, je dis n'importe quoi. En fait, moi, j'adore aussi aller chez mon père. Voilà. Donc, je crois vraiment qu'il y a toujours un intérêt à adresser la parole et à donner des mots vrais pour mettre en adéquation des situations difficiles, douloureuses, avec le ressenti des enfants. Alors, bien sûr, et j'en terminerai par là, il y a des limites. Je pense également à la vérité qu'on se doit d'offrir aux enfants, parce que notre parole, elle doit toujours passer par le crible de la protection de l'enfant. Donc, tout doit être dit aux enfants de ce qui les concerne. Je pense qu'il faut surtout les laisser en dehors de problématiques purement conjugales, quand on a un adultère, un conflit financier, des problématiques sexuelles. On peut très bien parler à un enfant du conflit de ses parents sans rentrer dans le détail qui va le mettre, en fait, qui va majorer ses angoisses. Ou du contenu des addictions de ses parents, c'est pas la peine. On peut parler de l'alcoolisme, de la prise de toxique, j'ai aucun problème, sans rentrer dans le détail de ce que va faire le parent pour se mettre en difficulté. Tout doit être dit en adaptant son discours à l'âge de l'enfant. En veillant à employer des mots, un niveau d'explication qu'il va comprendre. Parce que sinon, on va faire naître, encore une fois, de l'angoisse. Là, j'ai l'exemple là, d'un petit garçon de 4 ans, c'était pas la semaine dernière, mais il n'y a pas bien longtemps. Son papa est incarcéré. Et sa mère me dit, donc c'est un enfant qui va vraiment pas bien, et sa maman me dit, en fait, je lui ai dit que son père était en voyage. Bon, alors, s'il est en voyage, pourquoi il vient jamais me voir ? Donc, s'il ne vient pas me voir, c'est que je ne suis pas assez bien pour qu'on vienne me voir. Vraiment, il s'en fout, quoi. Donc, au fur et à mesure de l'audience, on a pu dire, non, ton papa, il a fait une bêtise. Il est puni, il est dans un endroit qu'on appelle la prison. Il doit être très triste de ne pas pouvoir te rencontrer. Mais c'est un endroit où on lui donne à manger. S'il est malade, il voit des docteurs. Et puis, il va finir par sortir et tu pourras le retrouver. Voilà, ça... c'est arriver à mettre en adéquation de toute façon quelque chose que l'enfant sentait bien, que son père n'était pas en voyage, c'était trop bizarre. Je ne vais évidemment pas m'adresser comme ça demain. Demain, je rencontre un adolescent en situation de délinquance dont le père est incarcéré depuis qu'il est tout petit, qui lui-même, d'ailleurs, vient de l'être. Bon, il est ressorti dans le cadre d'une autre procédure. Je vais lui parler de la situation de son père. Je ne vais pas lui dire « ton père a fait une bêtise ». Je vais lui dire « ton père a commis une infraction ». Je vais le faire réagir sur la reproduction de ce parcours, sur le fait que, justement, lui, il voudrait être tout sauf comme son père et qu'il est en train de reproduire certaines choses et que ça le met en souffrance, alors même qu'il a tellement souffert déjà lui-même de l'absence de son père, etc. On ne va évidemment pas s'adresser de la même manière à un enfant de 4 ans qu'un adolescent. Par ailleurs, je pense qu'il faut penser quand même les modalités de l'audience. Faire venir les enfants à l'audience, ça ne veut pas dire forcément les mettre en contact avec leurs parents. Il y a des situations dans lesquelles ça fait longtemps que l'enfant est placé, les parents sont très dégradés. Bon, c'est pas forcément... il faut penser ça. Donc, dans certaines situations, ce n'est pas la majorité, mais je vais auditionner les enfants sur un temps différent de celui des parents. Et puis, il faut aussi respecter la volonté de l'enfant de ne pas se présenter. Voilà. On a toujours la possibilité dans la loi de dispenser l'enfant de comparaître. Donc, les services travailleurs sociaux souvent l'utilisent pour me dire « mais non, mais vous pensez, oh là là, il est déjà fragile ». Non, mais justement, s'il ne va pas bien, moi, je vais le voir, je vais essayer de lui expliquer ce qui se passe. Mais parfois, pour les enfants, ce n'est pas le moment. Je me souviens là, d'une adolescente, j'ai fait l'audience, son éducatrice référente m'a dit « non, elle n'a pas pu venir ». Et quand c'est comme ça, je leur dis, c'est pas grave. Moi, de toute façon, quand ça sera le moment pour elle, je fixerai un créneau pour l'entendre. Et ça aussi, ça fait appel à l'attachement, la question, parce que dans nos bureaux, en fait, ce qu'on essaye de faire quand même si on est dans la posture du juge, mais c'est de faire vivre quand même aux enfants des expériences correctrices, bien que ponctuelles du point de vue de l'attachement, donc de garder une figure qui reste disponible. Beaucoup d'adolescents dans mon travail savent que s'ils viennent se présenter au tribunal, ils seront reçus, si tant est que je sois là. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas marcher. Et bizarrement, en fait, ça n'arrive pas tant que ça. Les adolescents n'en abusent pas. Et le simple fait de savoir, ça, c'est quelque chose qui est très sécurisant et rassurant. Donc, en conclusion, je pense pouvoir dire que protéger un enfant, ça suppose de l'associer à la procédure qui le concerne. Et le législateur s'inscrit en effet dans ce mouvement en allant vers davantage de prise en compte de cet impératif au nom de l'intérêt de l'enfant. Mais au-delà de la notion juridique de l'audition de l'enfant, le juge des enfants doit, pour être à la hauteur de sa mission de protection de l'enfance, il doit veiller à participer à la création d'un sentiment de sécurité chez les enfants à travers le processus judiciaire. Et ça, quel que soit son âge et sa capacité de s'exprimer, pour donner de la légitimité au processus judiciaire, pour donner de la légitimité aux décisions qu'il rend et pour faire en sorte que les mesures éducatives qui sont ordonnées derrière soient comprises et investies. Et ça suppose de permettre à chaque enfant déjà de nous rencontrer et puis de le regarder, de lui adresser la parole pour lui donner des clés de compréhension de sa situation avec des mots adaptés à ses capacités de compréhension et de le rassurer. Et ça doit être, à mon sens, un but qui est complètement assumé de nos audiences en protection de l'enfance.
Merci. Alors, c'est très intéressant, ces trois témoignages, il me semble, en tout cas, vos témoignages m'intéressent beaucoup, parce que on parle chacune, en fait, d'un point de vue qui est un peu différent de nos positions, la position du juge, la position de l'enseignant, disons, la position, on pourrait dire, de la psychanalyse d'enfant. En vous écoutant, il y a deux choses qui me viennent. La première chose, c'est que... En fait, ce qu'on entend dans ce que vous dites, toutes les deux, c'est que, et c'était la question hein, de cette conversation, peut-on tout dire aux enfants ? En fait, cette manière de considérer que l'adulte, que ce soit le parent, le juge, l'enseignant, soit en position comme ça de surplomb, tout dire, comme s'il était là, en surplomb, comme dans une espèce de position comme ça, transcendante, on pourrait dire, ou souveraine. En fait, c'est jamais vraiment ça qui se passe complètement. C'est-à-dire, il me semble que ce que vous mettez en évidence, y compris la position du magistrat, qui pourtant est en surplomb à la verticalité de la loi et tout ce qu'on veut, en fait, il est quand même obligé, elle est obligée, la magistrate, de se mettre à l'écoute de l'enfant. Et donc, en fait, tout dire à l'enfant, peut-être pas, mais en tout cas, dire à l'enfant, c'est parler avec l'enfant. C'est-à-dire, c'est être dans un dialogue. Et ce que vous disiez, Cécile, c'est aussi ça. Hein, y compris par rapport à ces jeunes qui, par exemple, ont des attitudes comme ça, de rejet de tout ce qui pourrait être garçons qui pourraient être féminins en eux ou qui pourraient donner à penser qu'ils ont une forme de féminité. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de leur imposer ou de leur enseigner la bonne parole. Ça ne marche pas du tout. De même, parler à un enfant, y compris de la situation de ses parents, c'est toujours aussi, il me semble, dans les auditions, c'est aussi les écouter d'abord. Donc, en fait, tout dire, il y a une espèce de prémisse à ce tout dire à un enfant, ce serait que l'adulte, il serait dans une situation comme ça, verticale, de pouvoir, un peu comme une espèce de transcendance, comme ça, délivrer un savoir dont il serait lui-même un détenteur tranquille. En fait, non seulement ça ne marche pas, mais ce n'est pas ça. Et la deuxième chose à quoi ça m'a fait penser de vous écouter, c'est que, en fait, quand on travaille avec des enfants, et ça, c'est toujours ce même psychanalyste hongrois, quand même assez intéressant, qui l'a compris, c'est qu'on a soi-même été un enfant. Et si la psychanalyse, elle a apporté une chose à l'histoire de l'humanité, peut-être une seule, les autres sont peut-être à mettre un peu de côté, c'est que de cette histoire d'enfant en nous, y compris une grande partie, nous est pas accessible, mais nous revient très étrangement quand on parle aux enfants. C'est peut-être pour ça que vos collègues magistrats, ils ont parfois un peu de mal à recevoir un enfant petit. Parce que parler à un enfant, aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne parle pas de ses propres enfants, mais y compris quand on devient professeur, commencer à s'adresser à de jeunes enfants, c'est toujours très étrange. On ne sait pas très bien comment s'y prendre, on peut dire qu'on est maladroit. C'est peut-être aussi parce qu'en fait, il y a une part de nous très ancienne à laquelle on n'a pas vraiment accès, qui est aussi sa propre enfance. Et je me dis, je ne sais pas si beaucoup de magistrats sont en analyse, mais que le fait d'être magistrat, plaisanterie mise à part, le fait d'être exposé à l'enfance et aux difficultés de l'enfance, ça produit aussi des effets dans ce que Ferenczi appelle l'enfant dans l'adulte. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un surplomb d'adulte, on est aussi renvoyé, vous l'avez dit Cécile dans votre histoire très bouleversante dans l'évocation de cette pouponnière, on est aussi renvoyé, quelle que soit au fond sa trajectoire d'enfance, et qu'on en soit complètement conscient ou pas, évidemment on ne l'est jamais complètement, à sa propre histoire à soi. Et donc, ça produit des interférences. Et donc, ce rapport vertical entre tout dire à l'enfant qui doit, comme ça, recevoir la vérité comme si elle tombait du ciel, en fait, c'est jamais ça dont il s'agit. J'aurais voulu vous entendre un peu sur ce que ça fait, au fond, à un adulte de parler à un enfant.
Alors, c'est évident que je travaille à leur côté et je me construis en même temps que je tente de les construire. Je ne suis pas là où je suis professeur ou écrivain par hasard, hein. J'écris parce qu'au départ il y avait du silence, donc je raconte des histoires toute la journée, et je suis professeure de lettres parce que je suis une ancienne très mauvaise élève, donc il y a beaucoup de trucs qui dysfonctionnent au départ à l'origine. Après Évidemment, on n'est pas une sorte de deus ex machina, d'instance supérieure qui écrase. Moi, j'ai énormément d'empathie et je sollicite le dialogue sans arrêt et j'essaye de prendre en compte les idiosyncrasies de chacun pour ensuite inventer un programme qui leur est dédié. Mais à la fois, je ne succombe pas aux sirènes du confusionnisme parce qu'ils me feraient payer ça extrêmement cher. Je suis leur maître. Je sais des choses qu'eux ne savent pas encore. L'autorité que j'ai, je la tiens des auteurs, c'est le même mot. Et ils me savent gré de me placer là aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Madame la juge, hein. Ils demandent des repères, des bornes. Et quand on les lâche comme ça dans une espèce de confusionnisme, ils détestent ça.
J'entends bien, il y a des places tout à fait établies. C'était plus ce que ça fait à l'adulte de parler avec l'enfant, surtout quand il est question de la vérité de l'enfant. C'était plus ça. Ou d'essayer d'amener l'enfant sur le chemin de l'acceptation, par exemple, de l'altérité. Comme votre cas. C'est pas de confondre les positions. C'est en quoi ça ébranle un peu quand même l'adulte de dire, entre guillemets, la vérité à l'enfant.
Ça ébranle énormément et on essaye de les ébranler aussi parce que c'est là qu'on construit. Je pense qu'une formation, c'est avant tout une déformation. Je parlais de décentrement tout à l'heure, aller voir ailleurs. L'école doit arracher les enfants à leur quotidien. Ces élèves, parfois homophobes, je les ai habillés en filles sur scène, maquillés, et ils ont travesti leur langage et ils se sont rencontrer à ce moment-là. Hein. On n'est jamais autant conscient de qui l'on est que lorsqu'on est confronté à l'altérité. L'expérience de l'autre, elle est cruciale quand on est artiste. On en parlait avec Vanessa hier encore. Ce qui est merveilleux avec le roman, c'est que ça nous oblige ce genre infernal, hein, ce genre littéraire infernal, à faire l'expérience de l'altérité. Vive la fiction, hein, parce qu'en fait, on en parlait, de livre en livre, on raconte peut-être toujours la même histoire, c'est-à-dire notre histoire, mais à travers autrui, à travers un personnage. On se déplace, on se décentre, et c'est aussi à un autre niveau. Je ne suis pas démagogue quand je dis ça, mais nos parcours sont parallèles et se ressemblent à bien des égards. C'est aussi ce chemin-là que j'ouvre à mes élèves, à mes étudiants, leur offrir une rencontre possible avec l'altérité.
Merci. Alors, sur la question de cette verticalité, du surplomb, ça m'évoque en fait le fait que, à la fois, effectivement, on ne peut pas rester dans un rapport qui est uniquement vertical, même si à un moment, il faut poser la loi. Et que c'est très important que nous, quand on est en audience, par exemple, l'audience, ce n'est pas une réunion de synthèse avec chacun donne son avis, ce n'est pas une question d'autoritarisme, mais c'est juste une question de pouvoir se référer à un cadre qui sécurise. Donc, on écoute tout le monde et après, on tranche. Donc là, effectivement, il y a une forme de verticalité, mais qu'il faut appréhender dans l'horizontalité, c'est-à-dire d'amener... Nous, dans nos audiences d'assistance éducative, on a un cadre juridique qui est assez souple, hein, ce qui nous permet d'avoir pas mal de créativité. Mais il y a une chose, c'est qu'on doit s'efforcer de recueillir l'adhésion des parents et de l'enfant, tout en respectant l'intérêt de l'enfant. Et ça nous amène évidemment à ne pas pouvoir rester en verticalité. Cela dit, c'est vrai qu'on est vu comme le juge quand même. Le juge, il est censé tout savoir. Ça me fait penser à la situation de Nikita. Oh, je l'ai rencontrée, je pense, il y a 15 ans. Ça me fait plaisir de pouvoir lui rendre justice. C'est une petite fille qui avait... mais c'est un exemple qui parle d'autres situations. C'est une petite fille qui avait une dizaine d'années, qui était placée. Sa maman était décédée, son papa était très carencé, il était régulièrement pas là, il n'était pas là aux rencontres, il aimait sa fille, mais il était lui-même très, très en difficulté. Et donc j'arrive à l'audience et son père n'est pas là. Et j'étais toute jeune juge des enfants et elle m'interpelle comme ça, elle avait un fort caractère, elle me dit mais toi t'es la juge, t'as qu'à l'appeler et lui forcer à venir. Et donc, je pense que là aussi, c'est pouvoir dire aux enfants nos limites. Oui, je suis la juge et j'aimerais tellement que ton papa soit là parce que je vois que tu souffres et je souffre avec toi du fait qu'il ne soit pas là. Mais je ne peux pas l'appeler. Je ne connais pas son numéro. Puis moi, je ne fais pas ça. Et puis là, ton papa, il n'est pas là. Voilà. Donc, je pense qu'il t'aime, mais qu'on est... Bon, voilà. Donc, il y a ça déjà à contenir. Et c'est aussi valable sur les représentations parfois des travailleurs sociaux, comme si on savait tout, qu'en fait, on est abreuvé par leurs écrits. Et puis sur la question de ce que tu disais sur, sur la question du fait pour les adultes d'être confrontés à la vérité de l'enfant, moi pour participer beaucoup à la formation de mes collègues, je suis toujours frappée par le fait que, alors ils sont pas stressés à l'idée de devoir, enfin pas stressés, pas trop stressés à l'idée de devoir rendre des décisions quand même qui impactent la vie des enfants, possiblement jusqu'à leur majorité. Mais alors par contre, la question d'auditionner l'enfant, c'est l'angoisse. Donc on a énormément d'attentes autour de toutes ces interventions. Comment on fait? Quand est-ce qu'on on l'auditionne? Quand? À quel âge? Comment? On lui dit quoi? Voilà. Et je crois qu'en effet, de toute façon, c'est valable pour toute la protection de l'enfance. On charrie des représentations et des choses de notre intimité dont on n'a même pas conscience. Donc, il me semble quand même que, c'est ce qu'on essaye de faire passer dans ces formations juge des enfants, tu as 50% de juridique, 50% d'ouverture sur d'autres matières. Il y a beaucoup de collègues qui râlent. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est du juridique. Non. Tu seras un bon juge des enfants si tu as aussi un bagage minimum sur des théories, sur juste comment ça marche un enfant. Et ça, ça devrait être questionné toi, en fait. Alors, on ne peut pas forcer les collègues, et ça, ce n'est pas prévu par l'institution. On ne nous met pas à disposition non plus, hein, ce n'est pas non plus très encouragé, si je suis honnête. Mais par contre, moi, par exemple, quand j'ai fait le diplôme universitaire sur l'attachement, alors j'ai été secouée, mais d'une force. Donc, en fait, ça renvoie aussi, parce qu'évidemment, ça nous renvoie à nos expériences personnelles et ça renvoie au système d'attachement du professionnel. On est dans une relation de soins. Donc forcément, on est impacté nous-mêmes. Et nos propres représentations et notre propre système d'attachement va avoir un impact sur la manière dont on va se positionner à l'égard. Et ça, je pense qu'on doit aux enfants et aux familles, à mon sens, d'être au clair. Alors, autant qu'on puisse être.
C'est très intéressant parce qu'il y a des professionnels, j'avais jamais pensé à ça avant que vous n'en parliez, mais il y a des professionnels médecins notamment, je pense à des services de prise en charge de pathologies très lourdes, qui pratiquent des expériences qu'on appelle depuis très longtemps des groupes BALINT, où un professionnel de la santé mentale, un psychologue, un psychanalyste, vient, et c'est l'idée de Balint, qui est d'ailleurs l'élève de ce fameux Ferenczi dont j'ai parlé tout à l'heure, l'idée que, en fait, quand on est au plus près de la souffrance, de la vérité insupportable, finalement, de la mort ou de la souffrance de l'enfant face à un parent complètement carencé, en fait, le professionnel, il est lui aussi extrêmement ébranlé. Et que, d'une certaine manière, cet ébranlement, ça l'empêche d'être tout à fait au clair. Ça pourrait être proposé au juge.
Il n'est pas non seulement ébranlé, il est aussi dans l'interaction et son propre système d'attachement et la manière dont il va entrer en lien avec les gens et avec les enfants, va être conditionné aussi par sa propre histoire. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut être au clair. On sait que chez les soignants, je parle avec un grand S, je m'inclus dedans, c'est-à-dire que toutes les fonctions de care, toutes les fonctions de soins, il y a une représentation des attachements insécures très, très forte parce que ça donne la motivation à soigner les autres. Bon, OK. Le tout, être insécure, c'est pas une pathologie. C'est l'attachement désorganisé qui peut être une pathologie. C'est juste d'être au clair avec ce qui nous anime.
C'est très compliqué d'être au clair. Mais au moins parler. Enfin, je me dis au moins parler, quoi. D'être au clair,
D'être au clair, en tout cas, tenter de l'être. D'être honnête avec soi-même. De pouvoir se dire, je serai jamais totalement au clair, peut-être déjà.
Non, mais c'est plutôt, je pense. Et ça, c'est les effets de la vérité, d'une certaine manière, si on veut revenir à ce qui est notre sujet. On s'est un peu déporté de la question de la sexualité, mais c'est la question de la vérité, des effets de la vérité. Par exemple, pour un enfant, de découvrir que son père ne tient pas suffisamment à lui, parce que la petite Nikita dont vous parlez, elle comprend quand même quelque chose qui est absolument bouleversant. C'est que son père ne peut pas être là pour elle, n'est pas responsable d'elle, d'une certaine manière, ne lui répond pas. Et que même l'adulte, en charge de la puissance publique, ne peut pas le rendre responsable d'elle. Donc là, il y a un effet de vérité qui est pas que judiciaire, quoi. Un effet de vérité.
Il y a un effet de vérité que le judiciaire doit contenir. Mais oui, il y a un effet de vérité très fort. Alors qu'il n'est pas responsable. En fait, on observe, c'est peut-être encore un autre sujet, mais des parents qui peuvent être parents, qui peuvent être responsables, mais sur certains temps et pas tout le temps. Et voilà, bon, ça, c'est toute la question de l'évaluation, soit d'une incapacité ou de voilà.
J'entendais la responsabilité mais au sens cas, étymologique, c'est-à-dire oui, être garante de l'autre.
Oui, tout à fait. Et bien ça, à ce moment-là, enfin, même sous cet angle-là, on pourrait encore en discuter. Mais en tout cas, oui, y a une vérité qui s'exprime. Et nous, on est là pour la contenir d'un point de vue judiciaire.
Et là, c'est intéressant parce que la vérité de cette jeune enfant dont vous parlez, c'est elle qui la nomme. C'est ce qu'elle comprend de la situation. qui produit un effet de vérité. Donc, ce n'est pas tout dire aux enfants au sens où on aurait à délivrer à l'enfant la vérité de sa situation. Bien souvent, l'enfant, en fait, il comprend la vérité de sa situation.
C'est ça. Elle, en tout cas, elle a été en capacité de l'exprimer. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas en capacité de le faire. Elle a un très fort caractère. Elle a grandi, elle a... poser quelques petits actes de délinquance. Bon, je crois qu'on en avait un petit peu... voilà, les adultes n'étaient pas totalement déresponsabilisés de sa situation, à mon sens. Mais bon, il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui n'arrivent pas. Et en fait, l'idée, je pense, quand on les entend, c'est aussi de proposer des choses. Moi, j'en sais rien, en fait, de ce que tu ressens, mais... Tu vois, dans ta situation, je me dis que peut-être ça, tu dois le ressentir. Peut-être, hier, j'avais une audience, franchement, une audience qui paraissait banale, d'une adolescente, enfin très jeune non, d'ailleurs, 11 ans et demi, 12 ans, elle faisait plus grande que son âge, qui n'allait plus du tout à l'école. Et puis sa mère, milieu bien carencé, le père il était incarcéré, il était sorti. En fait, l'année d'avant, les deux parents avaient été incarcérés, y compris la mère, ce qui était quand même pas fréquent que la mère soit détenue, donc ça a été quand même un choc pour les enfants. Et donc là, la mère était ressortie, elle avait reformé un couple avec son mari plutôt violent, et elle allait plus du tout à l'école. Et la mère me dit, de toute façon, j'arrive pas à la lever, elle est complètement flémarde, j'arrive pas. Et puis, elle avait une... Quand je l'ai entendue seule, des postures très adolescentes, en disant « Ouais, mais c'est que j'ai la flemme. » Voilà. Bon. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis « Ben, moi, je me dis quand même que, je sais pas, ton père, là, il est en prison, ta mère aussi. Et puis, juste après, tu vas pas à l'école. Je sais pas, t'aurais peut-être pas envie de rattraper un peu le temps perdu avec maman. » Elle me dit « Ouais, c'est ça, en fait. J'ai trop peur que... j'ai trop peur qu'elle reparte encore en prison et que moi, que j'ai plus de temps avec elle. » Et en fait, de toute façon, les phobies scolaires, hein, c'est toujours... Il y a toujours une raison dans la sphère familiale. Je dois veiller mon parent. Hein. Mais donc, c'est des choses que je connais. Mais en proposant, en fait, des analyses... Je
mais vous savez comment ça s'appelle, en psychanalyse, que vous avez fait là ? Ça s'appelle une interprétation. Je ne sais pas si c'est prévu dans le cadre légal, mais en tout cas, sans doute, de temps en temps, ça permet de pouvoir dire quelque chose à l'enfant.
Le cadre légal, il nous laisse de la liberté, de la créativité dans le temps de l'audience. Et moi, je m'en sers. Donc, j'essaye des choses. Je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue. J'ai quelques formations, quelques bribes. Voilà. Et puis, j'ai un terrain de jeu quand même. Si je mets des guillemets et je le dis avec beaucoup de respect parce que j'ai des audiences quasiment tous les matins. J'en sois... 5 ou 6, c'est beaucoup trop, situation extrêmement complexe. Je ne parle pas d'un enfant, il peut y avoir plusieurs enfants dans une fratrie. Donc effectivement, j'essaye des choses. Et je m'aperçois que quand on peut... En fait, quand on propose des choses, c'est comme si j'avais l'impression que l'enfant pouvait s'arrimer aux interprétations qu'on pouvait proposer. Alors parfois, on tombe à côté, ou vont dire non. Et puis parfois, ils vont dire non, mais on sent que c'est défensif. Et puis c'est pas grave, il l'aura entendu. Moi, je pense ça. C'est pas grave, on sera pas forcément d'accord. Moi, je me dis quand même que ça doit être compliqué pour toi. Notamment en délinquance, hein, les enfants, alors, c'est souvent les ados, rien à voir. Hein. Franchement, mon père, il est pas là. Alors je m'en fous complètement. Ok. Et quand t'étais petit, alors ça marche bien. Et quand t'étais petit, quand tu vois les autres, il y avait leur père qui venait à sortir de l'école. Ouais, quand j'étais petit, ouais, grave. Mais maintenant, j'ai grandi. Ah, ok. Bon, voilà. Donc, c'est proposer des choses sur lesquelles ils vont pouvoir à un moment s'arrimer.
Je ne savais pas que la fonction de juge était si proche de celle de la fonction de l'analyste, mais en tout cas, c'est très intéressant.